Chers auditeurs, chères auditrices de Mets des Résistances Radio Galère 88.4, bonjour, bonsoir. Pour cette émission du lundi 9 novembre 2020, j'ai pas voulu rebondir sur l'actualité tout de suite par rapport aux résultats des élections américaines. Je préfère qu'on attende un petit peu de savoir exactement à qui on a affaire et ce qui va se passer. Donc on va attendre quelques semaines, mais cela dit, ça n'empêche pas qu'aujourd'hui on a une émission qui est très intéressante en ce jour qui est un jour de commémoration de la mort du général de Gaulle, avec une commémoration à Colombelles et deux églises. Nous allons parler aujourd'hui d'un autre homme important dans la République française. C'était sous la Troisième République, c'était Léon Bourgeois, un des cofondateurs de la Société des Nations, la SDN, un Chalonnais, puisque notre émission Mets des Résistances s'est jumelée avec celle de Radio Mono à Châlons-Champagne. La semaine prochaine, je vous en dirai un petit peu plus et puis je le mettrai dans les résumés de mes podcasts. Donc ce soir, on parle de Léon Bourgeois avec Bruno Maltais, qui est le président d'une société d'histoire chalonnaise et qui a écrit plusieurs livres sur l'histoire de Châlons et notamment qui relate la biographie de ce fameux Léon Bourgeois. Je vous laisse le découvrir et on en reparlera un peu plus la semaine prochaine. Chers auditeurs, chères auditrices, passez une excellente émission et une excellente semaine. À bientôt. Chers auditeurs, chères auditrices de Mets des Résistances, Radio Galère 88.4 et Radio Mono à Châlons-en-Champagne, aujourd'hui une émission commune à Marseille et à Châlons-en-Champagne, la ville de la Marne dont je parlerai un petit peu plus amplement tout à l'heure parce que j'ai sur mon plateau un invité de marque qui connaît très bien cette ville. On va parler aujourd'hui de quelqu'un de la paix dans le monde, c'est la première chose importante qui en ressort. Et tout particulièrement de la paix dans le monde sous les auspices d'un homme politique qui a été très important, qui justement était chalonnais, Léon Bourgeois. Et donc j'ai invité aujourd'hui Monsieur Bruno Maltais à en parler, parce que Monsieur Bruno Maltais a une association d'histoire, il fait de l'histoire locale. Il est prolifique en matière de production d'ouvrages divers et variés, mais ayant tous trait à l'histoire de Châlons-Champagne. Donc ce monsieur, il fait de l'histoire locale. Les historiens locaux sont des gens exceptionnels parce qu'ils s'attachent à des pans de l'histoire qui n'intéressent pas tout le monde. Ce n'est pas repris dans les grands manuels de l'histoire nationale. Et souvent, c'est un petit peu ingrat, mais c'est très, très important de déterminer l'histoire et l'identité d'un territoire. Les gens qui évoluent sur un territoire, qui y vivent, peuvent être issus de différentes fratries, on peut avoir différentes croyances, être issus de différentes familles ethniques, mais ils ont tous un point commun, c'est qu'ils vivent sur le même territoire. Et pour comprendre ce territoire-là, pour tous s'entendre sur un même territoire, il faut absolument s'intéresser à l'histoire de ce territoire, même remontant à très loin, même si on n'a pas des descendants qui ont vécu, qui ont fait cette histoire, même si on vient d'ailleurs. C'est très important de s'intéresser à l'histoire des territoires. Donc Bruno Maltais fait partie de ces gens-là, alors, qui nous font mieux connaître notre histoire locale. Sur Châlons, c'est prolifique sur le plan du patrimoine, aussi bien religieux que républicain, que artistique. Et il y a de quoi faire, Monsieur Maltais. Il n'est pas tout seul à faire l'histoire locale, il y a d'autres sociétés. Mais lui, il a beaucoup écrit, il a écrit notamment sur Léon Bourgeois, un livre qui va sortir, qui s'appelle « Léon Bourgeois, apôtre et prix Nobel de la paix, chronique de la haie et Genève ». Avec un petit Catalonien illustré, ça c'est sa revue qu'il publie tous les trimestres, où il raconte des anecdotes sur l'histoire locale, si je ne me trompe pas, mais je vais le passer à l'antenne, Monsieur Maltais, donc c'est lui-même qui va vous l'expliquer. Et donc je pense que Bruno, on doit pouvoir trouver votre livre, Léon Bourgeois, apôtre et prix Nobel de la paix, à la librairie, la librairie du Mot à Châlons, c'est ça?
Ça sera ça. C'est pas... Bonjour à tout le monde. Ça sera ça, mais pas tout de suite, puisque donc actuellement il est en souscription et il sort le 5 novembre. Donc à partir du 5 novembre, il sera disponible à Châlons en Champagne, à la librairie Limo et dans toute la France en s'adressant à notre association, puisque on pourra le vendre par par souscription et donc par envoi postal. Voilà, donc effectivement, j'ai écrit un livre sur Noam Bourgeois, mais il faut resituer le contexte. Le 20 décembre 1920, Léon Bourgeois recevait le prix Nobel de la paix pour son œuvre durant les deux années précédentes, puisque donc c'est lui avec le président Wilson, le président américain, qui a construit la Société des Nations. Bon, une Société des Nations qui n'est pas tout à fait à l'image de ce que Léon Bourgeois aurait voulu, mais au moins qui a eu le mérite d'exister. Et donc Léon Bourgeois fut le premier président du Conseil de la Société des Nations et a reçu son prix Nobel de la paix le 10 décembre 1920 lors de l'Assemblée générale des Nations à Genève, d'où le titre de l'ouvrage, donc Léon Bourgeois, apôtre et prix Nobel de la paix. Donc, c'est une chronique qui va de la haie à Genève, puisque Léon Bourgeois était premier délégué de la France à la conférence internationale de la haie de 1899 et ensuite de 1907, et il fut l'âme de ces deux conférences en apportant son esprit novateur, ce qui a permis de mettre en place notamment toute la procédure d'arbitrage et de poser les bases de la future Société des Nations.
Merci. Alors justement, cette Société des Nations, on va en parler un petit peu parce que elle est importante. Tout le monde a entendu parler de la Société des Nations comme étant une vieille entité, une vieille organisation qui n'aurait pas empêché la Deuxième Guerre mondiale, celle de 39-45, de se faire, et qui aurait été forcément par la même supplantée par l'Organisation des Nations Unies, née en 1945, à l'occasion de la création de laquelle le paysage international et géopolitique se redessine, là où c'est les Français et les Britanniques qui avaient le dessus en matière de relations internationales et de diplomatie après 14-18. D'ailleurs, la conférence de la paix, tous les traités de paix après 18 se sont faits à Paris, à la fameuse conférence de la paix du même nom. En 1945, la donne est très différente. Ce sont les Américains qui prennent le dessus. Et depuis, dans un contexte de guerre froide, latente, puis le contexte actuel qui est un petit peu plus troublé, on a de cesse d'avoir eu ce schéma-là, finalement. Donc, si on se replace dans le contexte de la SDN, on n'était pas du tout à la même époque. Il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui plaident pour un retour à la SDN. Par exemple, je fréquente un institut qui s'appelle l'Institut Schiller, qui est un institut qui fait la promotion des idées de Schiller, quelqu'un, un humaniste, un grand humaniste, qui est en même temps un chef d'entreprise, et qui prône, entre autres, le retour à la SDN. Qu'est-ce que vous en pensez, Bruno ?
Alors, je ne sais pas s'il faut revenir à la SDN. Ce que je sais, c'est que la SDN, c'est l'ancêtre direct de l'ONU, puisqu'elle a subsisté quand même jusqu'en 1945, même si durant la Deuxième Guerre mondiale, elle était en sommeil. La SDN, alors, la Société des Nations, c'est une idée qui germe déjà en 1899 lors de la première conférence de la haie. on retrouve cette notion de société des nations civilisées dans le texte de la convention donc, qui est signée à l'issue de cette conférence. Le sujet est réabordé 8 ans plus tard, en 1907, lorsque l'on réunit à nouveau la conférence de La Haye, donc, dont l'objectif, comme celui de la première, était d'arriver à une certaine forme de désarmement, mais surtout était d'organiser la paix comme étant issue du droit. C'était la paix par le droit, une notion novatrice, puisque jusqu'à présent, on appliquait toujours le bon vieux proverbe latin, si tu veux la paix, prépare la guerre.
Oui, effectivement, ce qui est le contraire d'ailleurs de Sun Tzu, qui nous dit qu'il vaut mieux toujours préférer la paix à la guerre. Et effectivement, c'était très novateur à l'époque. C'est là que est né finalement le droit international. Et on a d'ailleurs, à l'époque, il y avait d'ailleurs le président Wilson qui s'était déplacé à la conférence de Paris pour évoquer ces 14 points. C'est bien ça ? Voilà. Léon Bourgeois était contemporain de cette époque-là. Alors, juste une chose, je vais vous laisser vous exprimer sur ce que je viens de dire, mais avant tout, ma question c'est qu'est-ce que vous pensez d'un retour, enfin, de faire évoluer notre droit et d'arriver à une primauté du droit international un jour. Est-ce que ça ne serait pas par là, en renouant avec cette idée du droit comme barrière contre la guerre, et contre la guerre mais aussi contre la misère et contre le mépris de la dignité humaine, ainsi que de l'environnement, ça va avec, hein, de toute façon. Est-ce que on va finalement, nous, êtres humains, faisons bien partie de l'environnement Je vais très loin dans ma perspective écologique. Est-ce que vous ne trouvez pas que si on essayait de faire un effort pour qu'il y ait une primauté du droit, au même titre qu'il y a aujourd'hui chez nous en Europe, une primauté du droit européen sur nos droits nationaux, on ne finirait pas par arriver à cette fameuse paix, par mieux évoluer, par avoir des sociétés plus prospères, et justement par faire évoluer nos civilisations.
Vous êtes...
Je vais d'abord une première question sur...
Oui, non mais je rebondis sur ce que vous venez de dire. Vous êtes là au cœur de la pensée de Léon Bourgeois, puisque lui, donc, sa pensée de base, c'est que c'est le droit qui doit régir la vie en société, la vie en société en interne au niveau national, mais aussi qui doit régir la vie internationale. Et donc, d'où les deux conférences de La Haye dont je parlais, d'où le vaste mouvement pour la paix qui a lieu dans tous les pays occidentaux dans les années 1900 à 1914, tous les congrès de la paix qui vont avoir lieu, donc qui tous demandent que l'on crée la paix par le droit, la paix par la solidarité des peuples. Donc, mais pour cela, il faut que tous ceux qui sont autour de la table acceptent le principe. Or, et c'est ce que je démontre dans l'ouvrage que je publie, ce ne fut pas sans mal que ce principe a été adopté aux deux conférences de La Haye, parce que... Rappelons-nous le contexte de l'époque. Nous sommes sous la Troisième République, qui est née du désastre de Sedan, donc de la chute du Second Empire, qui a amputé la France de l'Alsace-Lorraine, donc en fait des deux départements alsaciens et la Moselle. qui a créé un traumatisme important, bien sûr, dans l'opinion, et qui va empoisonner la vie internationale jusqu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, de la Première Guerre mondiale, pardon, lorsque les trois départements annexés par l'Allemagne vont revenir à la France. Donc, et quand on voit le déroulement des conférences de la Haye, donc de 99 et surtout de 1907, nous sommes dans une période où les pacifistes et les pacifiques, il faut faire peut-être une petite nuance entre les deux, prône le désarmement, alors que nous sommes à une période où on a l'Allemagne qui s'arme de plus en plus, et donc on est face à une course aux armements en Europe. D'où la difficulté. C'est une énorme difficulté parce que la nation allemande a la capacité financière de supporter cet effort de guerre. Certes, la France a aussi la capacité d'en faire autant, mais nous sommes sur une escalade. Nous sommes sur et c'est la paix du monde qui est menacée à ce moment-là. D'où l'importance des conférences de la Haye, dont l'objet est de travailler sur le désarmement et surtout sur la constitution d'un droit international où, au lieu de régler ces conflits en montrant ses gros muscles et en envahissant son voisin à coups de canon, etc., on va grâce à l'action menée par Léon Bourgeois, on va discuter, on va mettre en place l'arbitrage, on va mettre en place une cour internationale de justice qui devra régler les litiges entre les nations, parce que des litiges entre nations, il y en a tous les jours, comme il y en a tous les jours entre particuliers. Donc l'idée, c'est bien d'instaurer des instances internationales par l'arbitrage ou par la justice, et surtout de les rendre obligatoires. Donc c'est tout le combat qui est mené par Léon Bourgeois, entre autres, du côté français, mais on a d'autres hommes d'État en Angleterre, aux États-Unis, etc., qui vont en faire de même pour instaurer donc cette paix par le droit. Alors, pour en revenir au président Wilson et à la Société des Nations, en 1917, le président Wilson présente un plan de paix en 14 points, dont un des points, je crois que c'est d'ailleurs le dernier, c'est la Société des Nations. C'est pas une idée neuve. Je veux dire, en 1909, Léon Bourgeois donc a publié un ouvrage intitulé « Pour la Société des Nations », où il expose donc tout le travail fait lors de la conférence de la Haye en 1907 et où il jette les bases d'une future Société des Nations.
Donc, ce qui s'est décidé à la Haye, il y a bien eu une continuité jusqu'en 1917, malgré la rupture de 14-18. Malgré la rupture de la guerre, ce qui s'est fait, tout le travail qui a été fait de discussion, de débat en 1899, ça a finalement porté ses fruits. Et parce que cette conférence de la paix en 1919, c'était vraiment fantastique. Est-ce qu'on pourrait en parler un petit peu? Parce que c'est vrai qu'à Chalon, en ce moment, on parle beaucoup de la SDN et de la Haye, mais on ne parle pas beaucoup de la conférence de la paix en 1919. Est-ce que Léon Bourgeois, enfin je le rappelle, c'était quand même très flatteur pour les Français. Ils invitent à Versailles, eux, en prenant bien leur revanche quand même sur la défaite de Sedan, puisque la défaite de 1870, la défaite française avait été signée à Versailles. Et donc c'était une humiliation pour les Français dont ils se sont souvenus pendant très longtemps. Et ils prennent leur revanche en 1919 puisque c'est à leur initiative que toutes les délégations de tous les pays qui ont participé à la guerre se rendent à Versailles pour cette fois-ci négocier les accords de paix dans les différents pays. Justement, je trouve que c'est quand même très très flatteur, mais on n'en parle pas beaucoup. Est-ce que Léon Bourgeois y avait participé? Et qu'est-ce que vous pensez de l'importance de cette conférence de la paix en 1919? Pour vous, qu'est-ce que ça représente? Est-ce que c'est une continuité de la haie ou est-ce qu'il y a une rupture déjà qui expliquerait la guerre 39-40?
Alors, la conférence de la paix est une continuité des conférences de la haie, avec bien sûr la prise en compte de ce qui vient de se passer, de cette guerre atroce qui a ravagé l'Europe, qui a ravagé aussi principalement la France, puisque elle s'est sur le terrain européen, elle s'est principalement passée en France, sur tout l'Est et tout le Nord de la France. Donc, bien sûr qu'il y a un lien étroit entre cette conférence de la paix et Léon Bourgeois, mais il faut la prendre un petit peu en amont. Lorsque le président Wilson annonce son plan de paix en 14 points, dont une société des nations, avec donc en souhaitant, en demandant la constitution d'une société des nations, le gouvernement français qui était à cette époque-là présidé par M. Ribot, l'accord de l'Assemblée nationale, met en place une commission interministérielle qui va être chargée d'étudier ce que pourrait être la Société des Nations. La présidence de cette commission est dévolue à Léon Bourgeois, qui a une aura extraordinaire en la matière, vu l'immense travail qu'il avait fait lors des deux conférences de la haie, vu l'ouvrage qu'il a écrit en 1909, vu l'action pour la paix qu'il a menée sans cesse depuis. Donc, cette commission va travailler du mois de juin 1917 jusqu'au mois de mai 1918, et donc va remettre ses propositions au gouvernement français, qui entre-temps a changé de tête, puisque entre-temps c'est Clémenceau qui est président du Conseil, et c'est là qu'on commence à avoir quelques petits soucis, dans le sens où entre Clémenceau et Léon Bourgeois, on ne peut pas dire que ce fut une le grand amour. Donc, comme Clémenceau se méfie beaucoup de Léon Bourgeois, qui a une aura extraordinaire, et donc il va tout faire pour le mettre de côté. Ce qui n'empêche pas Léon Bourgeois de continuer à agir, de constituer en France ce qui existe déjà dans les autres pays européens, chez nos alliés. Il va créer la veille de l'armistice, il va créer une association française pour la Société des Nations. Il va en être le président. Donc, en fait, il crée un moyen de pression sur le gouvernement. Ce qui fait que, au mois de janvier 1919, lorsque on engage la conférence de Paris qui va déboucher sur le traité de Versailles, Georges Clémenceau est obligé de donner un rôle à Léon Bourgeois, mais pas le rôle que l'on attendait. C'est-à-dire que Léon Bourgeois ne fera pas partie des plénipotentiaires français de la paix. Par contre, il sera le représentant de la France à la commission mise en place au sein de la conférence de la paix. Donc, on crée une commission pour mettre en place la Société des Nations. Et donc, c'est Léon Bourgeois qui mène les discussions au nom de la France sur la base du projet qu'il avait présenté 6 mois auparavant. Donc, il va discuter avec, entre autres, le président Wilson. Malheureusement, comme Clémenceau est plus, je dirais, n'est pas un homme de paix au sens propre du terme. Bien sûr qu'il voulait la paix, mais Clémenceau, son objectif, c'était de gagner la guerre. Léon Bourgeois, son objectif, c'était de gagner la paix. Donc, on est sur deux options qui sont un petit peu différentes. Et donc, les négociations que Léon Bourgeois va avoir face au président Wilson, et je dirais, d'une manière générale, aux anglo-saxons, ne vont pas aboutir aux résultats que Léon Bourgeois aurait voulu, entre autres. Pour Léon Bourgeois, pour que la Société des Nations puisse être efficace, il fallait qu'elle puisse éventuellement avoir recours à la force armée des Alliés. Ce que les Américains n'ont pas voulu, mais parce que le président Wilson avait un gros problème avec son Congrès, avec son Sénat, qui lui était démocrate, le Sénat était républicain. Wilson avait réussi à arracher à son Sénat la possibilité d'intervenir en Europe, mais le Sénat américain, on était, je crois, à 1 an et demi du renouvellement du mandat. Le Sénat américain va s'opposer aussi bien à la Société des Nations qu'au traité de paix qui ne sera pas signé par les États-Unis.
Oui, parce qu'à l'époque, aux États-Unis, ce qui primait, c'était ce qu'on appelait la doctrine Monroe encore. Il voulait que les Américains n'interviennent pas dans les affaires de l'Europe. C'est bien ça. Et se contentent de rester sur leur continent.
C'est bien ça. Et donc,
ça a changé après.
L'intervention américaine en 17, dans le cadre de la Grande Guerre, est une rupture par rapport à la doctrine Monroe, mais ce que le Sénat américain n'a pas digéré, et donc il s'est chargé ensuite de revenir à cette fameuse doctrine, et on aura le même problème durant la Deuxième Guerre mondiale. Voilà, donc si les Américains ne sont entrés en guerre que de mémoire en 42, c'est parce que il y avait cette fameuse doctrine, et donc il a fallu le désastre de Pearl Harbor pour que le Sénat américain accepte l'entrée en guerre des États-Unis contre l'Allemagne en 42.
Oui, ils sont restés pendant un bon moment fidèles. Alors si on avait peut-être eu l'intelligence bien à l'avance d'anticiper après 1918 sur une alliance de coopération en cas de belligérance ou d'attaque entre la France, l'Angleterre et les États-Unis, on n'en serait pas arrivé là peut-être.
Cet accord, Georges Clémenceau l'a négocié avec l'Angleterre et avec les États-Unis. Donc, avant la signature du traité de Versailles, donc au mois de mai 1919, Georges Clémenceau avait l'assurance que si l'Allemagne voulait recommencer ce qu'elle a fait en 14, que la France aurait à ses côtés l'Angleterre et les États-Unis. Sauf que ces accords-là, les Anglais les ont ratifiés. Par contre, les Américains ne les ont pas ratifiés. Donc, ça a été signé par le président Wilson, mais comme tout traité international, il faut ensuite que ce soit ratifié par les parlements nationaux. Or, le Sénat américain s'y est opposé, comme il s'est opposé à la signature du traité de paix par les États-Unis. Et dans le traité de paix, il y a la Société des Nations. Voilà. Donc, la Société des Nations, pour en revenir à elle, c'est le préambule du traité de Versailles. C'est la première partie du traité de Versailles. Dans pas mal d'articles du traité de Versailles, on renvoie à la Société des Nations. Donc, par exemple, tout ce qui est du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, qui est une notion qui est apparue à cette époque-là, que l'on connaissait déjà avant la guerre, mais qui a pris toute son acuité avec le traité de Versailles, puisque donc au traité de Versailles, on ne se contente pas de signer la paix. On va aussi démanteler les empires austro-hongrois, et on va aussi démanteler le Deuxième Reich. Donc, en rendant la liberté à pas mal de peuples qui étaient sous la coupe soit des Autrichiens, soit des Allemands, et entre autres, rendre à la France les trois départements qui avaient été annexés en 1870, mais aussi c'est là donc que l'on va recréer la Pologne, qu'on va créer la Tchécoslovaquie, tous les États, tous les petits États, baltes, etc. Donc ils sont nés du traité de Versailles, mais ils vont être mis en place par la Société des Nations. Et c'est là qu'on va voir le rôle important joué par Léon Bourgeois, tant qu'il va pouvoir continuer à siéger au sein du Conseil de la Société des Nations, en sachant que Léon Bourgeois a une santé précaire. Il est atteint d'une cécité, d'un début de cécité qui s'aggrave. D'autre part, il a contracté la tuberculose il a une santé précaire. Et il est né en 1851, donc lorsque l'on signe la paix en 1919, il a 68 ans. Bon, 68 ans, aujourd'hui, on est encore souvent en pleine forme. Il y a un siècle, c'est pas tout à fait le cas. Et donc, Léon Bourgeois va travailler pour la paix au sein de la Société des Nations jusqu'en 1923. Après, il est fatigué, il ne peut plus, et de toute façon, il meurt le 29 septembre 1925.
Merci Bruno. Nous arrivons à peu près à la moitié de cette émission pour les Marseillais, et puis pour en ce qui concerne nos chers Chalonnais, il nous reste plus que 10 minutes à peu près, un petit peu moins même. Je voudrais qu'on parle un petit peu de ce qui va se faire à Chalon et sa région bientôt, puisque je le rappelle, nous avons à Chalon une grande avenue qui s'appelle l'avenue Léon Bourgeois. C'est une des plus grandes du centre de Chalon. De Chalon, ex-Chalon-sur-Marne, devenu Chalon-Champagne, ça on en reparlera tout à l'heure, redevenu Chalon-Champagne. Et donc, Léon Bourgeois est issu de cette ville. Alors, À Chalon, il y a quand même beaucoup de gens importants, hein, parce que là, j'ai visité l'exposition Pierre Dac, hommage à Paris. Et puis il y a eu Cabu, il y a eu Léon Bourgeois, c'est énorme quand même, hein, une petite aparté vite fait comme ça.
Oui, alors, Léon Bourgeois est. Alors, précisons quand même, Léon Bourgeois est né à Paris. Hein, il est devenu chalonnais en se mariant avec une chalonnaise. Et donc, lorsqu'il a commencé il a commencé sa carrière avec une carrière administrative en étant secrétaire général de la préfecture de la Marne, donc à Chalon. Et ensuite, il a gravi les échelons internes pour être préfet, pour finir en 1888 comme préfet de police à Paris. Et c'est là qu'il se lance dans la bataille politique pour être député de la Marne. En 1888, il se présente contre le général Boulanger, dont je ne vais pas faire le panégyrique. Il se présente dans la Marne contre Boulanger. Il est élu au premier tour avec, de mémoire, plus de 60% des voix. C'est dire aussi l'état déjà de sa popularité à l'époque. Et donc ensuite, en 1889, lors du renouvellement général de l'Assemblée nationale, qui à ce moment-là va se faire au scrutin d'arrondissement, il choisit la circonscription de Chalon-sur-Marne à l'époque, puisque c'est celle de sa belle-famille, et il sera réélu député jusqu'en 1902. En 1905, il y a un siège de sénateur qui se crée dans la Marne, il se présente, il est élu sénateur, et il le restera jusqu'à sa mort en 1925. Donc Léon Bourgeois, c'est un Chalonnais d'adoption, c'est un Marnais d'adoption, mais il était vraiment attaché à sa petite patrie d'adoption. Hein, donc je le vois dans les travaux que je fais. Il est là pour les réunions locales, etc. Donc, il a eu vraiment un ancrage local important.
Oui, il est important pour les Chalonnais. Donc, c'est pour ça qu'il y a un colloque qui est organisé cette année, puisque le prix Nobel de la paix a été accordé il y a exactement 100 ans à Léon Bourgeois. Il est mort à 95 ans. 5 ans avant de mourir, il a donc reçu ce fameux prix Nobel de la paix en 1920. Et donc la ville lui rend hommage. Donc il y a une exposition qui se décline en 3 musées. Du 27 novembre au 22 février 2021. Avec dans le premier musée, le musée des Beaux-Arts et d'Archéologie, l'exposition de la carrière administrative et politique de Léon Bourgeois. Au musée du cloître Notre-Dame-en-Vaux, la question de la franc-maçonnerie en exposition. Et enfin, au musée Garinet, troisième musée, le côté artistique de l'artiste de la paix, artiste et collectionneur. Donc il y a beaucoup d'archives, les gens qui ont organisé cette exposition ont beaucoup travaillé avec des archivistes de la SDN, du Sénat, des archives diplomatiques, du musée de la franc-maçonnerie de Paris, des archives départementales de la Marne, ainsi que de nombreuses collections privées. Il y a aussi la bibliothèque municipale qui organisera un hommage un petit peu plus discret, mais en publiant néanmoins toutes les archives, toute la bibliothèque de Léon Bourgeois, parce qu'il y a beaucoup de livres. Léon Bourgeois avait une bibliothèque monumentale dans son domicile de Chalon-en-Champagne. Et il a légué ses livres à la ville. Et donc, ces livres de Léon Bourgeois vont être exposés pendant le temps que durera justement l'hommage, je le rappelle, du 27 novembre au 22 février 2021, avec un colloque qui aura lieu les vendredis 27 et samedi 28 novembre au Musée des Beaux-Arts. Donc, le temps de notre émission pour ce qui concerne Châlons en Champagne, du moins, est terminé. Les Marseillais, je vous retrouve après la chanson qu'a choisie Bruno Maltais. Il a choisi une très belle chanson qui représente aussi la paix, puisque ça parle d'amour. C'est « Quand on n'a que l'amour » de Jacques Brel. Je vous laisse l'écouter. Chers Chalonnais, je vous dis à dans 15 jours. Je rappelle que votre émission « Mets de résistance à Châlons », c'est les 2e et 4e jeudi du mois de 20h10 à 21h. Et tandis que vous, chers Marseillais, nous allons parler tout à l'heure de Léon Bourgeois, franc-maçon, après la chanson.
Quand on n'a que l'amour à s'offrir en partage au jour du grand voyage qu'est notre grand amour. Quand on n'a que l'amour, mon amour, toi et moi, pour qu'éclate de joie chaque heure et chaque jour. Quand on n'a que l'amour pour vivre nos promesses sans nulle autre richesse que d'y croire toujours. Quand on n'a que l'amour pour meubler de merveilles, découvrir de soleil la laideur. Quand on n'a que l'amour pour unique raison, pour unique chanson et unique secours. Quand on n'a que l'amour pour habiller le matin pauvres et malandrins de manteaux de velours. Quand on n'a que l'amour à offrir en prière pour les maux de la terre en simple troubadour. Quand on n'a que l'amour à offrir à ceux-là dont l'unique combat est de chercher le jour. Tracer un chemin et forcer le destin à chaque carrefour. Quand on a que l'amour pour parler au canon et rien qu'une chanson pour convaincre un tambour. Alors sans avoir rien que la force des
chers auditeurs, chères auditrices marseillais, nous reprenons avec l'interview de Bruno Maltais, qui est un historien local qui a écrit beaucoup d'ouvrages sur la ville de Châlons-Champagne, une ville très intéressante située juste entre Épernay, la ville où se trouvent toutes les grandes maisons de Champagne, et Reims. C'est une ville du 51, de la Marne. C'est une ville qui a une histoire très riche, qui a été marquée par les deux guerres, 1914-1918 surtout, puis aussi la Deuxième Guerre mondiale. Une ville qui a un patrimoine religieux très marqué, très intéressant. Une ville, quand on est dans le sud, on se rend pas compte, mais dans le nord, ils ont vraiment du patrimoine en matière de. Ils ont de très belles cathédrales, de très belles églises. Dans le sud aussi, mais enfin, c'est plus marqué dans le nord. Et c'est la ville aussi de Cabu, dont on parle beaucoup en ce moment, puisqu'il fait partie des journalistes qui ont été assassinés lors des attentats à Charlie Hebdo, dont on a parlé doublement parce que c'était de la date anniversaire, mais aussi parce qu'il y a eu ce massacre, ce meurtre qui a été perpétué le 15 octobre 2020 contre un de nos enseignants, Monsieur Paty. On a fait une émission spéciale dessus les 15 jours qui précèdent la diffusion de l'émission d'aujourd'hui. Et donc, c'est une ville... je dirais que Châlons-Champagne, c'est une ville de fins lettrés et d'humoristes, parce que c'est aussi la ville de Pierre Dac. Ce sont des gens qui n'aiment pas se prendre au sérieux, mais qui ont une grande rigueur intellectuelle. Et quand on a une rigueur intellectuelle, on ne peut pas embrasser certaines théories, qu'elles soient fascistes, à proprement parler, je voulais dire d'extrême droite, on est souvent résistant, et puis contre tous les fascismes, ceux d'aujourd'hui comme ceux d'hier ou ceux de demain, et puis on ne peut pas embrasser non plus certains points de vue intégristes. Donc on est forcément, pas adhérent, mais sympathisant de mouvements comme la Libre Pensée, la LICRA, où j'allais citer à nouveau la franc-maçonnerie. Et Bruno, je sais que vous mourrez d'envie de parler. Justement, je parle de franc-maçonnerie. Léon Bourgeois était franc-maçon. Il y a d'ailleurs une exposition qui sera consacrée à Léon Bourgeois, franc-maçon, au cloître Notre-Dame en Vaux pendant la durée de l'exposition. Est-ce que vous pouvez nous parler de Léon Bourgeois, franc-maçon, qui d'ailleurs fait l'objet d'un aparté dans les portraits et hommages que vous publiez aux éditions Le Petit Catalonien, et aussi certainement, vous devez sûrement en parler dans votre livre, non pas dans le livre, mais enfin, vous en parlez quand même dans votre petit ouvrage à illustrer, donc je vous laisse en parler tout de suite.
Alors ça m'est assez difficile de parler de Léon Bourgeois franc-maçon dans la mesure où la franc-maçonnerie est une société, je dis pas secrète, mais discrète, et où donc à travers les recherches que j'ai pu faire, donc deux mots sur mes recherches, les recherches que j'ai faites sur Léon Bourgeois pour sortir mon livre et le hors-série de mon journal, je les ai faites dans la presse locale. Donc on avait deux journaux à cette époque-là, l'Union républicaine de la Marne qui était radicale, qui a été créée par Léon Bourgeois, et le journal de la Marne en face qui lui est clérical et donc est opposé à Léon Bourgeois. Bon, donc à travers ces recherches-là, certes, de temps à autre, je vois apparaître la franc-maçonnerie, mais j'ai pas d'études complètes sur Léon Bourgeois en tant que franc-maçon, parce que de toute façon, c'était pas l'objet direct de mon travail. Je voulais travailler sur la paix. Mais ce qui est certain, c'est que Léon Bourgeois était franc-maçon. Il fut initié à la franc-maçonnerie lorsqu'il était sous-préfet à Reims. Ensuite, il a adhéré à la loge de la bienfaisance de Châlons, et il y est resté jusqu'à la fin de ses jours. Donc, il n'a jamais caché être franc-maçon. Donc c'était un franc-maçon, c'était un libre penseur, mais contrairement à ce que l'on pense souvent, c'était pas un bouffe-curé. Je veux dire, il était non-croyant, enfin, il était athée, je suppose, en tout état de cause, libre penseur, mais c'était un anticlérical au sens propre du terme, au sens noble du terme, c'est-à-dire que il n'était pas contre la religion. Il était contre le pouvoir politique que la religion avait à cette époque-là et entendait maintenir. Donc, d'où un de ses combats qui est le combat de tous les républicains de l'époque, c'était d'arriver à la séparation des églises et de l'État. C'est un combat qui est mené par les républicains depuis le début de la création de la Troisième République. Ça figure toujours dans les professions de foi de Léon Bourgeois dès 1888. Il va falloir quand même attendre presque 20 ans. Pour que ça se concrétise par la loi de décembre 1905. Mais donc, son anticléricalisme, c'est contre le pouvoir qu'entend exercer le pape sur l'opinion française, à travers les évêques, à travers l'Église, pour continuer à avoir une emprise sur la politique locale, en considérant que au-dessus de la République française, il y a l'Église. Or, le combat des francs-maçons à cette époque-là et donc des républicains est de remettre l'Église au centre du village, enfin tout au moins à sa place. Donc, ce n'est pas l'Église qui fait la loi, c'est le Parlement qui fait la loi. C'est là, donc on est en République, et donc, comme on dit assez vulgairement, on ne mélange pas les torchons et les serviettes. Donc la religion, ça reste la religion, on n'interdit pas aux Français de croire ou de ne pas croire, de croire à la religion catholique, au protestantisme et aujourd'hui à... comment au Coran. Par contre, vous avez votre foi religieuse très bien, mais elle reste chez vous. C'est pas la religion qui va gouverner la France, qui va dire au Parlement les lois qu'il doit voter. Voilà, donc c'est le principe noble et pur de la laïcité, donc de l'anticléricalisme de l'époque, qui fut un combat de longue haleine, donc qui a été porté donc bien sûr par la franc-maçonnerie, mais donc et par tous les républicains de l'époque, qui n'ont plus rien à voir avec ce qu'on appelle aujourd'hui les républicains.
Oui, tout à fait. À l'époque, ils étaient quand même très réactionnaires. Un peu. Non, je dis n'importe quoi. Aujourd'hui, ils sont devenus, quand on dirait républicains, quand on pense aux partis politiques, mais après tout, il y a quand même quelqu'un qui a dit qu'il fallait être au-dessus des partis. Quand on est républicain aujourd'hui, on est quand même beaucoup plus réactionnaire que les républicains d'alors. La République, c'était novateur. C'était les libertés, c'était la liberté d'expression, de croyance.
Mais... sans faire de polémique, hein. Les républicains d'aujourd'hui, au début de la Troisième République et jusqu'au lendemain de la Première Guerre mondiale, c'était les royalistes, c'était les bonapartistes. Donc voilà, donc, c'était la réaction. Bon, petit à petit, tous ces gens-là se sont ralliés à la République, mais pas aux valeurs de la République, puisque la Troisième République, telle que l'ont voulu des hommes comme Gambetta, c'était de mettre en œuvre les idées des Lumières, les idées de la Première Révolution française. Donc, les idées de la Constituante et de la Convention, donc de mettre en œuvre les principes de liberté, égalité, fraternité. Voilà. Ce qui n'était pas dans l'esprit des réactionnaires qui étaient royalistes, qui étaient bonapartistes, qui étaient je sais plus trop quoi d'ailleurs, mais donc qui s'opposaient à la République, parce que la République, pour eux, c'était la hantise, parce que c'était l'égalité, la fraternité, la liberté, l'égalité et la fraternité, des choses auxquelles ils n'avaient guère été habitués dans leur conception intellectuelle.
Oui, ils avaient beaucoup avaient peur. C'était une société en mouvement qui était en train de changer. Et on ne savait pas trop où on allait. Il y a beaucoup de gens qui essayaient de retenir un peu les choses parce que il y avait une peur, une angoisse. Moi, la question que j'allais vous poser, puisqu'on reste à Châlons, que l'hommage est fait à Châlons, à Léon Bourgeois, dommage qu'on n'en parle pas beaucoup au niveau national. Il ne fait pas partie des hommes politiques, donc on encense au niveau national, comme on peut le faire pour Clémenceau. Enfin, c'est des gens qui ont été quand même, qui ont eu des fonctions politiques très importantes, mais Léon Bourgeois, non, il y a beaucoup de gens qui ne le connaissent pas bien. Je parlais tout à l'heure des livres d'histoire. Il y a l'histoire telle qu'on l'enseigne à l'école, et puis après celle qu'on enseigne ou qu'on apprend en apprenant par soi-même, et aussi en allant voir parfois des historiens locaux, quoique Léon Bourgeois ait quand même une renommée internationale, il ne reste pas uniquement local, mais. La question que j'allais poser, c'est les gens de Châlons, qu'est-ce que vous en pensez? Ils ont joué un rôle important dans la République et dans la diffusion des idées nouvelles. On en a parlé de Léon Bourgeois, il y en a eu d'autres.
Je dirais que les Chalonnais, comme les Marnais, ont découvert la République et ses valeurs avec Léon Bourgeois. Donc c'était un homme politique alors, qui avait une prestance incroyable, qui savait séduire par ses discours, et donc qui a comme mis sous le charme les Chalonnais, puis les Marnais, qui lui sont restés fidèles, je dirais, à ses idées, même après sa mort, donc jusqu'à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Cela étant, Léon Bourgeois, si on regarde les journaux d'époque, avait une aura extraordinaire en France. Je veux dire, combien de Français savent qu'il fut président du Conseil, plusieurs fois ministre, président du Conseil, donc ensuite président de la Chambre et ensuite président du Sénat. C'est le seul homme politique qui eut ces trois fonctions-là, bien sûr pas en même temps. Et donc Léon Bourgeois aurait pu être président de la République. En 1906, ses amis l'ont pressé pour qu'il accepte la présidence de la République, mais compte tenu de son état de santé, de sa maladie, il n'a pas voulu. En 1913, il a de nouveau été sollicité, même par celui qui va devenir président de la République en 1913, qui est Raymond Poincaré. Mais Léon Bourgeois refuse à cause de son état de santé, parce que il sait pas trop où est-ce qu'il va, et en fait durant toute la guerre il va jouer un rôle important. Il va au lendemain de la guerre il va jouer un rôle international dont on a peut-être aujourd'hui du mal à se rendre compte, mais Léon Bourgeois était plus connu aux États-Unis que notre actuel président de la République, par exemple.
C'est pour ça que je me demande souvent si, comme je vous le disais tout à l'heure, j'encensais les sociétés locales, l'histoire locale, parce que je disais qu'elles faisaient remonter la vraie histoire, et que cette vraie histoire, elle est souvent occultée, plus ou moins foulée du pied, et ignorée dans certains manuels d'histoire. Et justement, moi j'ai l'impression des fois qu'il y a quand même une impasse historique volontaire de la part de la France sur l'importance que pouvait avoir Léon Bourgeois, qui finalement a eu les mêmes attributions, les mêmes fonctions que Georges Clémenceau. On parle toujours de Georges, et même davantage, on parle toujours de Georges Clémenceau et jamais de Léon Bourgeois. Alors que peut-être qu'en France, on a du mal à comprendre quelque chose qui est très important, c'est que effectivement, on veut être un pays important, on veut rester important sur le plan international. Il y a quelqu'un qui nous y a beaucoup aidé pendant la période 1945-1970, mais aujourd'hui, on est en train de retomber comme un flanc. On ne sait plus trop où on en est, nos politiques et nos diplomates, etc., mènent des politiques diplomatiques qui sont souvent un peu hésitantes. Ils essaient de donner des leçons à droite, à gauche, mais on sent bien que la France, c'est plus ce que c'était. notamment avec le fameux traité d'Aix-la-Chapelle. Là, c'est carrément, on donne notre place aux Allemands au Conseil de sécurité. Donc bon, ça c'est limite. Et donc j'ai l'impression que tout ça, ce qui arrive là, le traité d'Aix-la-Chapelle, pour qu'on en arrive à une extrémité pareille, pour laisser les Allemands prendre, laisser envisager que les Allemands puissent prendre notre place dans certaines circonstances au Conseil de sécurité, comme s'ils pouvaient se revendiquer de la possession de notre arme nucléaire à nous Français, ça découle finalement, vous inquiétez pas, hein, c'est une radio libre, libre pensée. On se demande finalement si ça découle pas de toute une école de pensée qui date, qui est même, et d'une époque qui est même peut-être antérieure à la guerre 14-18, où on occulte certaines idées. Et par exemple, le fait que la paix dans le monde, ce soit très flatteur pour les Français. Moi, je trouve que c'est très flatteur pour les Français d'avoir eu quelqu'un qui a eu une renommée internationale comme Léon Bourgeois, qui est pratiquement à l'initiative de la Société des Nations, vous vous rendez compte, que l'ONU a un peu copié dessus en plus.
C'est son père spirituel.
Voilà, tout à fait. Et donc, c'est tout à fait flatteur pour la France. Et alors donc, nous, Français, je reprends un titre de Marcel Gauchet, Le Malheur français, qui est un livre qui est quand même assez récent, qui date d'il y a moins de 10 ans. Franchement, pourquoi est-ce que quelque chose aussi flatteur pour nous, on passe à côté comme ça? C'est ça que je ne comprends pas. Et j'allais vous poser une dernière question avant que ça finisse. Léon Bourgeois, sa position pendant l'affaire Dreyfus, vous n'êtes pas obligé de vous y éterniser. Il nous reste 4 minutes.
Alors, je commence tout de suite par l'affaire Dreyfus. Léon Bourgeois était ministre au moment de l'affaire Dreyfus. D'accord ? Donc, il avait un principe auquel il tenait beaucoup, c'était le respect du droit. Et donc, et on lui a reproché d'ailleurs après, il ne s'est pas prononcé durant l'affaire Dreyfus. Par contre, son journal, L'Union républicaine, après avoir hésité un peu à se demander si dans l'affaire, qui dans l'affaire Dreyfus avait raison ou tort, a pris position très nettement pour Dreyfus. Et il y a certains articles que j'ai trouvés où je me pose la question de savoir si c'est pas Léon Bourgeois qui les a inspirés, en sachant que donc l'Union républicaine, c'était le journal de Léon Bourgeois, dont il était le directeur politique. Alors, mais Léon Bourgeois ne s'est jamais prononcé expressément comme l'a fait Jaurès, par exemple, dans l'affaire Dreyfus, et on lui a même reproché de s'être fait désigner à la conférence de la Haye de 1899 pour échapper à l'affaire Dreyfus. Ce qui est faux, mais ça fait partie aussi des critiques qui ont pu être faites à son égard, dont notamment Clémenceau. Oui, voilà. Donc, Léon Bourgeois, donc dans l'affaire Dreyfus, je ne peux pas en dire plus. Par contre, pour en revenir à ce que l'on parlait avant, sur son oubli, l'oubli dans lequel il est actuellement, cet oubli-là, je dirais, il est à l'image du monument qui lui a été érigé à Châlons au lendemain de sa mort. Au lendemain de sa mort, il y a eu une souscription nationale, même internationale, pour lui ériger un monument à Châlons, donc avec un piédestal de pierre, et donc lui étant représenté assis en train de présenter un discours, et donc lui étant en bronze. Ce monument-là, le bronze a été fondu, a été mis à bas début février 1942, et donc le bronze a été brisé et est parti en Allemagne pour alimenter les usines d'armement allemandes. Donc, ce qui est un petit peu fort, de voir que cet apôtre de la paix a servi pour faire la guerre. Bon, je ferme la parenthèse. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, il y a eu une association qui s'est créée pour ériger une nouvelle statue sur le socle, ce qui ne s'est jamais fait. Mais entre-temps, la politique française avait un peu changé. Léon Bourgeois, c'est le radicalisme. Le radicalisme fut roi, je dirais, jusqu'avant la Seconde Guerre mondiale. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les cartes politiques se redistribuent. Le parti radical devient moins important. Et on a à Châlons une municipalité gaulliste. Qui n'a qu'une hâte, c'est de se débarrasser de son monument, ce qu'elle va faire en le brisant. Et donc, c'est toute la phase d'entrée dans l'oubli de Léon Bourgeois qui commence au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et qui se prolonge encore actuellement, d'où l'oubli dans lequel il est aujourd'hui.
Et avec, on a oublié toute une école de pensée. Et ça, c'est dommage. Donc voilà, on terminera l'émission là-dessus. Bruno, merci beaucoup. Mais on a eu, chers auditeurs, la chance d'avoir Bruno Maltais avec nous ce soir. J'espère qu'on fera d'autres émissions ensemble. Voilà, merci.
Merci, au revoir.
Bonne semaine à tous.